بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعه الإسلام لسه من ديانيه. On avait longuement insisté sur les difficultés de l'au-delà. On avait longuement insisté sur les ahwal, la situation de toutes les personnes qui seront ressuscitées le jour du Qiyama, le jour du Mahshar. On avait expliqué que dans cette situation qui est chaotique, qui est vraiment la pire des situations qu'un être humain va vivre depuis son existence, depuis l'existence de la race humaine, depuis l'existence de la création, jamais une créature ne connaîtra une telle difficulté, un tel niveau d'angoisse, de stress, de détresse. Et dans ces moments difficiles, il y aura une seule lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, ce sera d'être invité par Allah Azza wa Jal pour être sous l'ombre de son arsh, pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Et quand on parle de dhil, c'est l'ombre, c'est également la tranquillité, une sakina, un endroit où on est préservé, où on est protégé des difficultés de l'au-delà. D'accord ? C'est comme si qu'imaginez, les exemples qu'on donne pour comprendre l'au-delà, tous les exemples ne reflèteront jamais la réalité de l'au-delà. Imaginez, vous êtes au Hajj. Celui qui n'a pas été au Hajj, qu'Allah Rabbul Izza vous emmène, Inch'Allah, le plus rapidement possible. Vous êtes de Wukuf Arafat, en plein été. Il fait 52 degrés. Il est 14h, il fait 52 degrés. En plein été, vous êtes de le désert là. On rigole pas là. Vous êtes de le désert. Il fait chaud. Une chaleur étouffante. Vous avez le ihram. Ihram, c'est pas en coton égyptien. Hein. C'est pas des trucs comme les maillots PSG. Enfin, les maillots de certaines équipes où on transpire, là, ça évacue. Non. C'est comme une serviette. C'est comme une serviette. Il fait chaud. Avec ihram. Tu ne peux pas enlever. Si tu enlèves, il n'y a plus rien dessous. Donc, c'est un problème. D'accord ? Tu es obligé de garder. Ok ? Tu fais chaud. Et tu n'es pas tout seul. Hein ? Il y a au moins 3,5 millions de personnes avec toi. D'accord ? Et la plaine de Arafat, ce n'est pas comme un pays. Ça, hein ? Il y a peut-être des gens qui disent que la plaine d'Arafat, c'est comme, je sais pas, Madagascar en entier. Non, c'est petit, ça. Et ça fait partie, enfin, on ne va pas entrer dans d'autres détails, ça fait partie des miracles du Hajj. Des endroits tout petits comme Mina, par exemple, à Yam al-Hajj, 3 millions, 4 millions, 5 millions de personnes peuvent entrer. Et tout le monde trouve une place. Tout le monde trouve sa place. Pour se mettre debout, pour se mettre assis, pour dormir, pour manger, son rizq, tout. Vous vous rendez compte? Nourrir 3,5 millions ou 4 millions de personnes dans un endroit qui est comme un quartier de Saint-Denis, c'est vraiment le miracle d'Allah Azza wa Jalla. Allez, on revient. Vous êtes donc à Arafat. Et donc, vous êtes en plein soleil, d'accord ? Vous êtes fatigué, vous avez... Subhanallah, il fait chaud et ainsi de suite, d'accord ? Il y a un seul endroit, il y a une seule tente qui est climatisée. Et là, vous êtes sous le soleil, vous voyez, il y a un seul endroit, il y a quelques personnes, on fait Alan, monsieur un tel, venez, vous êtes invité par, enfin, je ne sais pas qui, pour être sous cette tente climatisée. Là, vous voyez, les gens, ils s'assoient, les canapés, la climatisation, ils donnent des jus frais à boire et tout. Et il y a l'ombre. On dit que, subhanallah, ça c'est, je veux y aller. Même si, hein, il faut y aller de force, je vais essayer de rentrer là-bas. D'accord ? C'est le rêve de n'importe quelle personne, c'est avoir ce moment de répit. Toute comparaison, hein, décalage, hein, décalage total, le jour de Qiyama, c'est une situation encore plus délicate, avec encore plus de monde. C'est pas 3,5 millions, c'est Al-Alamin. Tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, tout ce qui existe, tout ce qu'Allah a créé est réuni en ce jour, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Avec ce soleil qui est juste au-dessus des têtes, et dans certaines riwayat, il est même dit que avec les portes du Jahannam qui seront ouvertes. Donc la chaleur du Jahannam arrive déjà sur la terre de Mahshar. Et dans cette situation, nous voyons des gens qui ont cet honneur d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyama. C'est l'exemple de la réussite. C'est le symbole de la réussite. Et non pas le symbole de la réussite que la société essaie de nous inculquer. C'est-à-dire vous devez être riche, vous devez avoir des diplômes, vous devez être beau, vous devez être comme ci, comme ça. Et là, vous êtes un homme accepté, intégré et vous êtes bien. Là, on vous reconnaît comme monsieur un tel, d'accord ? Et malheureusement, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les races, les origines, on retrouve toujours un modèle de réussite du dunya à la télé. À la télé, d'accord ? Celui qui est blanc, ben, il va trouver un acteur blanc ou un chanteur blanc et dit « Ah ouais, lui c'est le top meilleur ». Celui qui est de couleur noire, de peau noire, il va trouver tel rappeur. Booba, là je sais pas, comment appelle l'autre là ? T'es venu Rouf, Rouf, d'accord ? D'accord, Rouf c'est Raouf, Rouf je sais pas quoi. Il va écouter Rouf, Rouf c'est comme un chien qui Rouf, d'accord ? Bref, ça je regarde ça, lui. Ah, le jeune frère comorien, Maori, regarde ça. Moi, je veux être Rouf, d'accord ? Une fois, je zappais, excusez-moi. Vous voyez, il y avait la chaîne de Mayotte. Il y a une chaîne Mayotte, ça, d'accord ? Qu'est-ce que je vois ? Un petit maman, il m'adresse 13, 14 ans, il rappe. Déjà, tu rappes mal, tu ne sais pas chanter, mais tu crois que là, tu es devenu la grande star américaine. Il croit qu'avec ça, il aura Izzat. Il sera comme un tel, il porte des grosses chaînes en or qui ne vaut pas 450 000 euros. Mais lui, ben pour l'instant, il n'a pas grand-chose. Mais il pense qu'il faut commencer comme ça. Après, je vais devenir comme lui. Ça, c'est ce que le dunya essaie de nous faire comprendre. L'exemple de réussite. N'a'oudou billah. La tromperie, elle est énorme. La tromperie, mes chers frères, elle est partout. La tromperie, c'est ce qu'on entend du matin au soir. La tromperie, c'est qu'on voit, ce qu'on veut nous faire voir. On est conditionné à travers les écrans, que ce soit la télévision, que ce soit l'internet ou autre chose, ou ceux qui lisent encore des magazines ou des journaux, on nous conditionne la recette du succès. C'est un lavage de crâne, un lavage de cerveau. On nous inculque, c'est pire qu'inculquer, d'accord ? On nous gave, comme des oies qui sont gavées. L'oie, il n'a pas le choix d'aller manger à droite à gauche. On nous gave de cette recette de réussite, de najah, de izzah, de le dunya, et ça nous perturbe. Et ces mêmes personnes, le jour de Qiyama, ce sera quoi leur grande phrase qu'on a déjà citée plusieurs fois ? Yaqulul kafiru, ya laytani kuntu turaba. Ici, il marchait comme ça, il venait, il remplissait un stade, mais le jour de Qiyama, ya laytani kuntu turaba. Le seul souhait, le seul tamanna amal, c'est qu'il soit réduit en poussière. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas être présentés devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyama. Maintenant, quand on va voir véritablement les gens qui seront honorés le jour de Qiyama, j'espère qu'on n'aura pas de remords. J'espère qu'on ne fera pas partie de cette grande portion de personnes qui vont réaliser que je me suis trompé complètement d'objectif. J'étais complètement à côté de la plaque. J'ai considéré ces personnes comme mes modèles, alors que dans certaines sources, le prophète m'a dit que mes compagnons sont comme des étoiles. Même si certains disent que ce texte de hadith, il y a des degrés de faiblesse, mais le sens est authentique. Que les compagnons, ce sont des exemples pour chaque croyant. Alors celui qui aura pris Abu Bakr al-Siddiq, Omar Uthman Ali comme exemple, celui qui aura pris Abdurrahman bin Auf, Moussa bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhum ajma'in comme exemple, ben, il y a grand espoir qu'ils seront avec eux le jour de Qiyama. Parce que al-mar'u ma'aman ahabba. Chaque personne sera avec celui qu'il aimait. Si mon modèle c'était al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Rabbul Izzah nous demande le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est uswatun hasana, c'est le modèle parfait qu'on a de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si j'ai pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme uswatun hasana et que j'ai essayé de l'imiter, on a, bismillah, de grandes chances d'être avec lui, incha'Allah, dans toutes les étapes de l'au-delà. Maintenant, si, comme le prophète dit, man tashabba biqawmin fahuwa minhum, celui qui veut imiter d'autres personnes, je délaisse sa sunna pour aller vers telle tendance, ben, il y a de fortes chances que, nasallallahu al-afiyah, tu sois ressuscité avec eux. Maintenant, dites-moi, clairement, est-ce que quelqu'un préfère être ressuscité le jour de Qiyam avec Lionel Messi ou avec Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu? Toute plaisanterie mise à part. À moi de voir, c'est quoi mon tracé? J'arrête pas d'imiter, de regarder cette personne, j'aimerais être comme lui, c'est mon modèle. Mais le jour de Qiyam, c'est là qu'on comprend les véritables valeurs. Et donc, on avait expliqué la dernière fois que ces sept personnes-là, mes chers frères, ce sont les gens les plus heureux des deux mondes. Parce que de ce dunya, ils étaient heureux. Même si on avait l'impression que peut-être qu'il a l'air Il est tout le temps à la mosquée, il rentre, il sort, il n'a pas de vie, il ne s'amuse pas, on dirait qu'il est triste. Son cœur est avec Allah, Rabbul Izzah. Il est tout le temps là dans la masjid. Ça, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Heureusement qu'il y a la mosquée, sinon il aurait été dans la rue. Ne pensez pas comme ça. Ne pensez pas comme ça. C'est peut-être cette personne a son cœur. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Il a déjà une de ses qualités, l'homme dont le cœur est attaché à la masjid. Il ne peut pas quitter la masjid. Il ne peut pas. Quand il quitte la masjid, il sent un vide. Et ça, c'est ayat de iman, ça. C'est preuve de foi. Alors que le munafiq, l'hypocrite, qu'Allah nous protège, dans la masjid, il se sent mal. Comme un oiseau en cage. Il rentre dans la place pour chaper. La porte, là, elle est fermée. Ton cocherie, il est là. Il n'est pas poussé, passé. Il passe pas en accou, il faut 20. Quand ça va finir, il y a des gens à grattelle. Il ne peut pas tenir. Encore ici, on ne voit pas trop. Hein. Mais dans d'autres quartiers, je ne vous dirai pas où, parfois, plus il y a des gens, plus il y a. Vous voyez, il y a des gens après ça, salam alaykoum wa rahmatullah, salam est fini. Personne ne peut plus tenir. Il a besoin de sortir là, il a besoin d'aérer. C'est quoi ça? Le munafiq, sans juger personne, hein, le munafiq, quand il est dans la masjid, il ne se sent pas bien. Il a besoin d'être dans son beurre, c'est quoi? Être dans le dunya. Mais on va dire qu'alhamdoulilah, il est venu à la masjid quand même. Mais ça donne une idée du cœur, du contenu qu'il y a dans ce cœur, de la réalité du iman. Alors donc, cette personne, on voit dans la masjid, on se dit que oui, il a raté sa vie, alors que son cœur est attaché à la masjid. De son cœur, il n'y a que l'amour pour Allah. Il a également cette qualité, certainement, que quand il était jeune, il n'a jamais fait de bêtises. Il a eu des parents, mashallah, qui lui ont donné une bonne tarbiya. Vous croyez que j'ai dit une bonne raclée? Non. Une bonne tarbiya, une bonne éducation, d'accord? Ce qui fait qu'il n'a jamais bu d'alcool quand il était jeune. Jamais aller en boîte de nuit. Jamais écouter la musique. Jamais mettre un écouteur. Hein, je ne sais pas comment vous appelez, des cax, pas quoi. Jamais mis tout ça. Jamais sorti avec une fille. Jamais fait la bise à une fille. Jamais aller au cinéma. Jamais aller dans un endroit haram. Vous avez déjà dit, les endroits où il y a les fêtes, où il y a mixité, où il y a où on peut faire même le zina du regard. Toujours se préserver. Sans pour autant s'isoler. Sans pour autant devenir... dire comme quelqu'un de, comment on appelle ça, les gens qui ont des problèmes psychologiques, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est malade, c'est pas quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui protège son iman. Parce que son père, sa mère, l'ont éduqué, l'ont fait comprendre c'est quoi les limites. Mon fils, ma fille, les limites de notre dîne, c'est ça. Si tu franchis ça, tu franchis la ligne rouge et Allah Rabbul Izzah est mécontent de toi. Il y a des parents qui ont travaillé le cœur, le iman de l'enfant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith la dernière fois, il dit à ce petit garçon, ce jeune, que crée Allah, Allah sera toujours avec toi. Quand tu as besoin d'aide, فَإِذَا فَاسْتَعِنْ billah. Tu as besoin d'aide, demande à Allah de l'aide. Quand tu veux quelque chose, tu as besoin de quelque chose, oriente-toi toujours vers Allah. N'aie jamais peur des gens, n'aie pas peur. La peur c'est quoi? C'est extérieur, c'est intérieur ça. La peur, c'est intérieur. Bien. La confiance, c'est intérieur. D'accord? Le recours, c'est-à-dire chercher refuge, secours, implorer, trouver de l'aide, c'est le sentiment de détresse, ça n'est où ça? À l'intérieur. Après le prophète me dit donc, sache que si le monde se réunit pour te faire du mal, personne ne peut te faire du mal si Allah n'a pas écrit pour toi ce mal. Il fait de ce jeune homme une forteresse de iman. Et sache que si tout le monde veut t'aider, veut t'amener, veut t'apporter du bien, il veut te promet, enfin ça n'a pas dit ça, mais te promet les plus belles victoires, te promet les meilleures des ouvertures de ce monde et ainsi de suite, ils ne pourront rien t'apporter si ce n'est pas écrit dans ton taqdir, si ce n'est pas écrit dans ton destin. Prophète alayhi salat wa salam fait de ce jeune homme une forteresse de iman. De cet enfant, pas le jeune homme, fait de cet enfant une forteresse de iman. Est-ce que le prophète alayhi salat wa salam l'a brusqué, l'a bousculé? Est-ce que là, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa salam est passée par des claques, des gifles ou tirer les oreilles ou de la violence? Abadan. Du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, son message passe parce que ce jeune est admiratif du prophète sallallahu alayhi wa salam. Les ulama tarbiya, ça c'est toute une... Subhanallah, ça c'est une matière, ça tarbiya islamiya. Ça, il y a des professeurs spécialisés qui ont des doctorats dans ce domaine-là. Subhanallah, ça c'est quelque chose qui nous manque, ça. C'est malheureusement, les bouquins n'ont pas été traduits en français encore. Ça viendra peut-être un jour, Inch'Allah. Ils expliquent que pour que le qudwa, l'homme, enfin, pour que celui qui donne des conseils, ces nasiha touchent le cœur de la personne, atteint l'objectif, Il faut déjà qu'il y ait une admiration de l'autre sens. Comment est-ce que vous voulez que votre discours touche la personne, le jeune que vous essayez de conseiller, si vous-même vous n'êtes pas un exemple? On appelle ça, ça c'est des notions qu'on a apprises, ça fait longtemps ça, Allahu Akbar, ad-da'wa bil-qudwa, inviter, on peut inviter vers l'islam par les paroles, mais ça c'est inviter vers l'islam par le comportement, par le geste, en donnant l'exemple. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wasalam, il n'y a pas besoin de dire, c'était l'homme parfait. Et donc ce jeune garçon, il est admiratif. Ce qu'il va lui dire, il va l'accepter sans poser de questions. Il va l'accepter comme c'est haq et c'est haq. Mais qu'est-ce qui fait que nous, parfois, moi-même en tant que papa, des fois on explique le garçon, les enfants, quelque chose, il n'écoute pas. Hein, bah Idriss, qu'est-ce qui fait qu'il y a des fois on explique, il n'écoute pas? Je dois me poser la question moi-même, est-ce que je suis un bon exemple pour mes enfants? Est-ce que c'est possible qu'un papa qui fume, dit à son garçon, mais attends, ça me voit qu'il n'y a pas de cigarette là, mais casse de figure, mais kunichao. Ça vient de kuniché, d'accord, c'est du créole ça. D'accord? Attention, hein, il ne voit qu'un paquet de cigarettes. Le papa il fume. C'est une caricature, hein, mais c'est exactement ce qu'on est en train de reproduire par rapport aux conseils qu'on donne à nos enfants dans la salah, dans le respect des personnes âgées, dans le respect du voisinage, dans le akhlaq d'une manière générale. Il y a tous les conseils qu'on essaie de véhiculer, de donner à nos enfants. Ben, très souvent, ça n'aboutit pas parce qu'on revient à l'exemple du père fumeur qui dit à ses enfants de ne pas fumer. Comment est-ce qu'on peut souhaiter que nos enfants viennent régulièrement à la salah si moi-même, à l'heure de la salah, mon fils me voit affalé devant le canapé en train de regarder je ne sais pas quoi, ou arriver en retard à la salah? Comment est-ce que vous voulez que votre enfant, que notre enfant, il aura l'importance d'être à l'heure à la salah, de venir 5 fois par jour, si nous-mêmes on ne donne pas l'exemple? Comment vous voulez que notre enfant apprenne à contrôler son regard, notre jeune adolescent, si quand il fait les courses avec papa, le papa même fait vigile, il scanne tout le monde, tic, 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 tic. Mais pas tout le monde, avec belle madame, d'accord? Reconnaissance visuelle, thermique et tout, d'accord? Et vous pensez qu'on ne remarque pas ça? Bien sûr que les enfants ils remarquent. Tarbiya bil qudwa. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand le prophète alayhi salat wa salam donne ce conseil à cet enfant déjà il est admiratif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que le prophète alayhi salat wa salam va lui dire, il va l'accepter comme une révélation. Et quand c'est le prophète, hein, ça c'est dans le sens propre figuré, c'est vraiment une révélation. Donc, cette personne, pour revenir à cet individu qu'on voit dans la masjid, parfois on se dit qu'il a raté sa vie, ben, il a dû avoir des parents, mashallah, pieux, qui lui ont donné une bonne éducation, mais pas par la contrainte, pas par la force. On n'éduque pas un enfant en l'enfermant, en l'emprisonnant. On avait dit la dernière fois, jusqu'à quand on peut emprisonner quelqu'un? Toute notre vie? Ouais, mais quand je suis mort après, et que l'enfant il sort de sa cage, et il découvre le dunya, il va rattraper le temps perdu. Il va rattraper toutes les bêtises qu'il n'a pas pu faire, et il va le faire de manière excessive, démesurée, comme personne ne le fait. Il va devenir un délinquant stupide, qui fait n'importe quoi, et qui fait de manière démesurée, et il va mal finir. Donc les savants, les ulama tarbiya, disent que la meilleure éducation, c'est l'éducation de l'âme, l'éducation de la foi, l'éducation du iman, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait donné des conseils concrets et pratiques à cet enfant. D'accord? Donc, cette personne, peut-être, il a eu des parents pieux qui lui ont donné cette éducation. Cette personne a le cœur attaché à la masjid. Cette personne fait peut-être partie de ces gens qui, dans sa jeunesse, il avait reçu les avances d'une jeune et belle femme. D'accord? Peut-être lui, quand il était jeune, il était belle, il était beau aussi. D'accord? Et il a refusé par amour et par crainte d'Allah. Pas parce que la femme en face n'était pas belle, ressemblait à un thon albacore, ou une morue, ou un morceau sounouk, non. C'est parce que il a iman en Allah de son cœur. Yani, dans cette catégorie qu'on va développer par la suite, les savants disent que la personne qui invite vers le zina, c'est une jeune et belle femme de grande famille. C'est-à-dire que, et cette personne a la possibilité d'accomplir le haram immédiatement, sans témoin, sans qu'il n'y ait le moindre retombée ni conséquence. Mais il ne le fait pas uniquement par amour et par crainte d'Allah. Ça, mes chers frères, ça c'est énorme. Peut-être que cette personne-là, dans sa jeunesse, peut-être qu'il a, comme ils disent en américain, enfin en anglais, you make my day. Tu as fait ma journée là. D'accord? Que tu as fait quelque chose, lui est arrivé, you make my day, man. Avec ça, c'est bon là, ma journée, elle est parfaite. je ne sais pas comment on traduirait fidèlement en français, dit que peut-être avec ça, he make his life, avec cette action, cette réaction face au péché, il a déjà obtenu sa place directe sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Tellement Allah était content de sa décision de refuser le haram par amour et par crainte d'Allah. Donc cette personne qu'on voit et que peut-être qu'on dénigre, on pense que c'est le dernier des derniers, peut-être cet homme-là, il a déjà sa place sous l'ombre du trône d'Allah parce que dans sa jeunesse, il a eu cette réaction de croyant, de mu'min, de muttaqi. Parce que uniquement quelqu'un qui a la crainte d'Allah de son cœur peut refuser le haram. Qui peut refuser le haram? Allah nous protège. Face à un fitna, personne ne sait le fond de son cœur. Personne. On peut être le plus grand barbu, le fundi, le alim, le mufti et tout. Face à un fitna, vous pouvez déraper en 2 secondes. Vous retrouvez atterré sur votre derrière. Oui. Parce que le piège de shaitan, c'est extraordinaire ça. Et il n'y a pas meilleur piège que fitnatun nisa. Parce que ça me dit que je n'ai pas laissé une fitna plus importante, plus dangereuse, je veux dire. Mais ce n'est pas dans le sens misogyne ou non. Hein. Une fitna, c'est pour montrer la faiblesse de l'homme. Il n'y a pas une fitna plus pertinente, d'accord, que la fitna et des femmes. Donc dans une situation où on est exposé à ce genre de fitna, c'est pour ça que cet homme-là, il obtient sa place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il a su s'en sortir. Il a su, mashallah, résister face aux plus grands des fitnas. Et le fitna qui te touche le plus rapidement par le regard, sahmoun, une flèche masmoum, empoisonnée, min siham iblis, parmi les flèches du diable. Quand on voit un petit peu, enfin, il se fut une époque où les jeunes lisaient des bandes dessinées, maintenant c'est fini, on représentait un ange cupidon, d'accord, avec une flèche. Et qui te touche, après tu deviens amoureux. Mais en fait, la vraie histoire, c'est Shaitan a ses flèches, il te touche avec ses flèches et il t'oriente vers le zina. Il t'oriente vers l'adultère. Le regard, c'est une flèche empoisonnée de Shaitan. Donc, ce fitna, ce péché qui touche vraiment quelque chose de faible en l'homme, en l'être humain, celui qui a su y résister, mashallah, c'est quelqu'un de noble. Et donc, cette personne-là, certainement, a eu sa place selon le trône d'Allah par cette action. Donc, on disait que oui. Face à ce genre de fitna, personne ne connaît son fond. Imaginez, vous êtes en voyage, ça on a déjà expliqué plusieurs fois. Imaginez, vous êtes en voyage, encore ici, ça va. D'accord? Parce qu'il y a un contexte, d'accord? Oui, on la retient, l'exemple Thaïlande, nous. On a envie d'aller découvrir. D'accord? Quelqu'un, il va dans un pays étranger, il y a. D'accord? Vous ne savez pas, vous recevez une proposition, vous avez une jolie femme qui vous invite et tout. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Personne. Ça, c'est un ikhtibar. Ça, c'est un imtihan. Ça, c'est un grand examen. Ça, c'est un grand examen. Et dans cette situation, on voit vraiment qu'est-ce que je vaux. Je suis peut-être l'homme qui paraît le plus pieux depuis 25-30 ans, je fais le travail de dîn. Mais dans le fond, face à ce fitna, je me rends compte que je suis perdu. Comme un enfant, je vais suivre le fitna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que إِذَا سَمِعْتُمْ بِالدَّجَّالِ. Si vous entendez parler de Dajjal, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? N'allez pas le voir par curiosité. On a dit que si vous entendez que Dajjal est dans une contrée, dans un endroit, n'allez surtout pas le voir par curiosité. On dit parce qu'il y aura cette personne qui croit qu'il a iman. Mais quand il va voir les miracles de Dajjal, la personne va tomber, succomber et suivre Dajjal et faire kufr et shirk. Il va considérer Dajjal comme son seigneur. Même si c'était quelqu'un qui faisait salat, qui a fait hajj, qui a fait umrah, qui lisait le Coran, il va voir parce que là-dedans c'est faible. Le prophète me dit que ne prenez pas ce risque. Vous entendez parler de Dajjal, restez chez vous, fuyez, n'allez surtout pas, même pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Parce que personne ne sait. Le prophète me dit que si, il donnait un cas de figure, mais il savait que ça n'allait pas se produire. Si Dajjal arrive et que je suis parmi vous, je vous suffirai. Le prophète, lui, il connaît quel est son degré de iman, il peut résister. Mais mis à part lui, il dit que personne n'aille le voir. Et par analogie, les savants disent, face à des fitnas comme fitnatun nisa, personne ne sait, tant que le fitna n'arrive pas près de chez vous, dans des conditions, dans des circonstances favorables, personne ne sait quelle serait sa réaction. Donc, demandons toujours protection à Allah d'être éprouvé par ce genre de fitna. Que jamais ce péché ne croise notre route. Qu'Allah nous protège du mal. Comme Allah Rabbul Izzah avait protégé Yusuf alayhi salam du mal lorsque la princesse, la reine est venue tu as des avances, Allah Azza wa Jal a protégé le cœur de Youssef alayhi salam et l'a fait éloigner du haram. Autrement, il serait un être humain. Et personne. Il y a le verset qui dit que si ce n'était pas la protection d'Allah, si je ne me trompe pas, si quelqu'un le verset en tête, il aurait pu. C'est-à-dire que même un homme a cette faiblesse. Adam alayhi salam avait besoin de Hawa. Un homme a besoin de ça. Donc résister face à ce fitna, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est pour ça que cette personne a eu sa place au nom du Seigneur d'Allah Azza wa Jalla al-Qiyam. Donc quand on revient à cette personne que certains vont qualifier comme un loser qui n'a rien gagné de ce monde, peut-être aussi que cette personne-là, là, quand il se réveille pour Qiyam al-Layl, Tahajjud, la prière de la nuit, et que la personne demande istighfar, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin, il ne peut pas continuer à compléter sa phrase tellement il y a des larmes qui coulent de ses yeux. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Autre sifat, une personne qui pense à Allah et ses yeux, subhanallah, les larmes coulent de ses yeux par amour et par crainte d'Allah. Et les savants disent que les larmes coulent de ses yeux par crainte d'Allah, mais également par un amour incroyable, un amour qui le pousse, qui fait qu'il ne peut plus, il ne peut plus attendre ce moment. Il est pressé de retrouver Allah Azza wa Jal un jour. Il pleure de joie parce qu'il ne peut plus attendre ce moment. Il veut retourner, il veut rencontrer son Seigneur qui va le récompenser pour sa vie de droiture. Et ça aussi c'est alama de iman. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Celui qui veut rencontrer Allah, qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Qui c'est qui aime rencontrer Allah? Riyad les prêts? Quel est le lien? Mais appelez les communes calmes. Prenez le code là-haut, 00786, d'accord? D'accord? Si quelqu'un dit Malik Al-Maud vient, il est quelle heure là? Je ne sais même pas quelle heure il est là. Si quelqu'un dit, il est 20h51. Si, imaginez, quelqu'un dit Malik Al-Maud vient à 20h52, il prend le ruh d'une seule personne, une seule. Mais personne de cette assemblée ne quittera pas la masjid tant qu'un ruh ne quitte pas ce dunya. Autrement, on reste là, en otage. Qui est volontaire? Riyad? Oustad? Allahu Akbar! Minas Salihin? Idriss? Abdullah? Bilal? Pas évident? C'est pas simple ça? De un, il y a le côté dunya, madame, enfants, petits-enfants là-bas et tout, ils ont besoin de moi et tout. Et puis, il y a. J'ai pas fait suffisamment, il y avait encore des choses à faire. On ne se sent pas prêt. On ne se sent pas prêt. Il m'est arrivé une fois, petite anecdote, Umrah, au mois de mai, l'année dernière, devant la Kaaba. Douleur au niveau du cœur. Je dis tout le temps, il va me dire, oui, ben alors. Peut-être un jour, Inch'Allah, Allah me donne la mort dans la dars, Inch'Allah. Devant la Kaaba, douleur au niveau du cœur. Et à un moment donné, on se dit que c'est peut-être problème cardiaque et tout. Devant la Kaaba. Et là, tu te rétractes. Tu dis, mais. J'étais tout seul, hein, la famille était restée à la réunion. Je dis que oui, mais attends, mais. Encore un peu jeune quand même, hein. 33 ans, il faut attendre encore un petit peu. Ajib, alors que c'est. Allah Akbar, est-ce que c'est pas le rêve de n'importe quelle croyance, hein? Tu meurs devant la Kaaba? Bien sûr que oui, mais quand tu es dans la situation où tu as l'impression que c'est la fin, c'est un sentiment humain, c'est un réflexe, on s'attache. L'instinct de survie, un instinct de survie, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils étaient prêts à n'importe quel moment. Matin, midi, soir, week-end, jour férié, casse pas la tête. Les prêts. Parce que le iman le donna, Allah Akbar, ça a été formé avec Mujahada. 13 années de sacrifice. 10 années avec le Prophète sallam, d'autres qui a été d'effort. A'mal, subhanallah. Maintenant, donc, ça c'est signe de iman aussi. Donc cet homme, fafardat aina, les larmes coulent de ses yeux. Un, il a la crainte d'Allah. Et deuxièmement, il rêve de ce moment de rencontrer. Il veut rien de ce monde, lui. Il veut rien, il n'y a rien. Rien qui l'intéresse. Rien qui l'intéresse. Si demain tu lui dis, ben. Je te donne un chèque de 10 millions d'euros. Ça ne le fait. Ça fait ni chaud ni froid. Nous, si jamais quelqu'un nous dit, il commence la phrase, on a déjà fait notre parcours, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va investir et tout. Mais cette personne-là, il n'y a rien qui l'intéresse. Seule chose qu'il veut, mais il y a des gens qui sont comme ça, vous savez. Mais on ne voit pas ça. Ça, c'est intérieur. On ne voit pas que la personne est comme ça. Donc tout ce qui est iman, taqwa, c'est dans le cœur. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger quelqu'un. Ne jugez jamais quelqu'un que c'est un homme pieux, parce qu'on ne sait pas dans le fond. Je ne sais pas si c'était quel tabi'in qui disait ça. Allah Akbar, un tabi'in très connu. Son nom échappe là. Quel est le tabi'in le plus connu? Oui, c'est Hassan al-Basri, barakallahu fik. C'est question pour un champion. Idriss n'aurait gagné deux ou trois fois pour l'instant. Si je ne me trompe pas, c'est Hassan al-Basri, rahimallah. Si je ne me trompe pas, c'était lui. Il disait que, en ce sens, hein, ne portez pas de jugement sur la piété de quelqu'un. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe quand il ferme sa porte le soir. Et bon, là, je dis en français, c'est un peu bancal. Mais quand il le dit en arabe, c'est magnifique. À la main, en ce sens. Vous ne savez pas quand il ferme la porte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on ne le voit plus, c'est quoi son intérieur? Ça, personne ne sait. Ses actions personnelles sont tuées en Allah. Donc, on ne peut pas juger. Ça, c'est un muttaqi, ça. Ça, c'est un homme pieux. Ça, c'est un grand personnage. Il y a des fois, on voit que ah, quel grand bouzouk là. Ah, c'est trop grand ce bouzouk. Sorte là. Non. Trop grand lui. Trop pieux cet homme. Arrête. Non, on peut pas, tu ne peux pas juger, Yari. On ne peut pas juger. Tout comme on ne peut pas condamner. Regarde ce fasir. Qu'est-ce que ça? Pécheur là. Regarde, harami. En Arabie Saoudite, harami. Harami, c'est les gens qui passent leur vie dans le haram, d'accord? Nous, on va dire pécheur endurci, ainsi de suite. On ne peut pas, on n'a pas le droit de dire. Tout ça, c'est dans le cœur. On ne peut pas juger. Personne ne peut juger. Donc, cette personne, peut-être le soir, quand il se lève, Qiyam al-Layl, alors que nous, on est dormi, on sort de garde Marseille, PSG, Marseille, la gagne 4-0, de le drève, et on est en train de dormir, lui, subhanallah, 1h du matin, il est en train de faire Qiyam al-Layl. Allah, j'ai déjà fréquenté des gens. J'ai déjà fréquenté des gens, min ahli Makkah. D'accord? On était ensemble une fois, subhanallah, je voyais ces gens, ils se réveillent dans la nuit, 1h du matin. Non, 2h. Qiyam al-Layl, jusqu'à Fajr. À une occasion comme ça, suhba de quelques personnes, Ahl Makkah, des Makkis. Qiyam al-Layl, 2h du matin. Au 2h du matin, tout le sommeil casse, on fait doigt qu'Inch'Allah, les patas, les tout, qui redorment. Il regarde la personne déjà Qiyam al-Layl. Et ça fait des Qiyam al-Layl, des rak'at interminables. Ils connaissent le Coran aussi, enfin, pas le Coran, c'est plus long que notre salat al-Tarawih. Et ça, c'est leur vie, ça, tous les soirs. Il y a des gens de ce dunya, même à notre époque, qui ont des stifades. Ça peut être à Makkah, ça peut être ici, ça peut être n'importe quel endroit du monde. La taqwa, elle est internationale. La taqwa, elle est universelle, subhanallah. Donc, vous voyez, à travers ces quelques exemples, là, on a cité quatre qualités hein, parmi ces sept stifades. Ne jugez pas une personne qu'elle a réussi la parité de ce dunya en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend à l'extérieur, mais en fonction des qualités qui seront requises pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, parce que ces gens-là, c'est l'exemple pour l'humanité, ce sont les gens qui auront vraiment réussi. Peut-être cet homme-là aussi, il a muhabba sincère pour son prochain. Dans son cœur, il n'y a jamais de jalousie, jamais d'hypocrisie, jamais il ne ferait riba, médisance, bohtan, calomnie, qila wa qal. Comment il traduit qila wa qal en créole? La dilafé, c'est même si la qila wa qal, la dilafé. Ça, c'est notre grande spécialité. Ou panchad, comme les Indiens, ils aiment dire. Colporter des nouvelles, tel a dit ça, tel a dit ça, dans le but de semer la zizanie et faire des problèmes. D'accord? Donc, c'est une personne qui a le cœur pur. Il n'a aucune présence de méchanceté, de jalousie. Il n'y a rien de négatif dans son cœur à l'égard de son prochain. Et là, Muhabba, il aime son frère en islam comme il aime ses propres frères de sang. Alors que nous, de nos jours, nos propres frères de sang, on ne les aime plus. Mais lui, il aime son frère en islam comme son frère de sang. Et on avait vu ça à Montreuil, des exemples de la vie des sahabas, des tabi'in. Quand on parle de ikram, faire preuve de générosité, de largesse dans les biens, aimer son prochain, il y a des exemples mais exceptionnels, extraordinaires. Quand quelqu'un possède quelque chose, son frère en islam n'a même pas besoin de son autorisation pour prendre ce qui lui appartient. Parce que pour lui, ça Allah m'a donné, ça c'est pour toi aussi mon frère. Les sahabas, les tabi'in avaient atteint ce degré de muhabba entre eux et c'était un muhabba pour lequel il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas d'exigence, c'était pas un muhabba par intérêt. Donc cet homme-là, il a peut-être cette qualité, cette sifat également donc dans son cœur. Cette personne, peut-être aussi que durant sa vie ou alors régulièrement, il a l'habitude de venir en aide aux pauvres, d'aider les pauvres. Mais aider les pauvres avec une telle discrétion, telle sincérité donc, que personne ne connaît, qu'il aide les gens. Il y a des personnes comme ça parfois, ils ont des entrées, ils ont une entrée d'argent et ils donnent des sadaqas, ils envoient dans des pays pauvres, que ce soit proche de nous, dans l'océan Indien ou ailleurs, pour des actions humanitaires ou autre chose, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Et quand on le regarde, on dit, ça a l'air d'être quelqu'un de modeste. Il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est normal. La grande majorité de ses biens, il donne dans le chemin d'Allah, il vient en aide aux gens. Et donc, il garde juste ce qui est nécessaire pour vivre. Il y a des gens qui existent comme ça à notre époque. Et ça, c'est des gens qui auront leur place sous l'ombre du trône d'Allah, Azzawajal, également, le jour de Qiyamah. Donc, mes chers frères, là on a cité en gros ces sept sifat, ces sept qualités qui peuvent tous se retrouver chez un même homme. Et donc cette personne, mashallah, sera l'homme le plus élevé qui aura cette place d'honneur au jour de Qiyamah. Ou alors les savants disent que quand on étudie, peut-être la semaine prochaine on va essayer d'expliquer un petit peu plus quelques sifat, quelques-unes de ces qualités. Les savants disent que le but c'est quoi? C'est de trouver la qualité qui nous parle le plus, qui nous paraît le plus accessible pour nous, et au moins de développer une de ces sept sifat, une de ces sept qualités, pour avoir cet espoir d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal, le jour de Qiyamah. Ça, c'est l'exemple de réussite. Ça doit être ça notre modèle, ça doit être ça notre objectif dans la vie, et non pas tout ce qu'on essaie de nous faire croire. On va s'arrêter là, ce soir, Inch'Allah. La semaine prochaine, on va essayer de passer un petit peu de temps sur une seule qualité, parce qu'on avait dit que le but, ce n'est pas de développer, on a besoin de compléter Hadith Jibril, mais quand on parle de Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, ça, ça nous intéresse. Un jeune qui grandit de l'obéissance d'Allah, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous touche personnellement. Selon certains savants, on est chab, on est jeune jusqu'à l'âge de 35 ans. D'autres, ils vont dire, parce que 33 ans, certains disent que 33, c'est l'âge des gens du paradis. C'est 33 ou 35 ? 33, hein, 33. D'autres, ils vont dire qu'être jeune, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, on a beaucoup, ils disent, ouf, on est sauvé, d'accord ? Mais il y en a d'autres, hein, ça c'est Ibn Uthaymin, rahimahullah, si je ne me trompe pas, il disait qu'être jeune, c'est jusqu'à l'âge de, si je ne me trompe pas, lui, il donnait. Ah non, 15 ans. Non, il dit que, attends, ma bain al-khamsa ashara sana ila thalathin. D'accord, entre 15 et 30 ans. 15, c'est l'âge de boulour, c'est l'âge de la puberté en général, en moyenne, jusqu'à l'âge de 30 ans. N'est-ce pas? Bon, là, nous les cuits. Beaucoup, on n'a plus de chance. Il dit que jusqu'à 30 ans, on les considère encore comme. Parce qu'en général, une personne à 30 ans est déjà stabilisée. Il s'est marié, il a une famille et tout, donc. Il y a moins de tentations. Il dit donc, selon certains savants, ça va jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, c'est cette phase-là où il y a le plus de récompenses à gagner. C'est cette phase-là où il y a le plus de tentations aussi, de waswasa, de shaitan, où on devient un client premium. Comme ça, il dit un client, comment il dit? Premium de shaitan, d'accord? Un client gold card, la carte gold, d'accord? Comme chez SFR, vous êtes un client gold, puisque vous payez beaucoup. Pour un shaitan, le jeune est un client gold. Donc, il va faire le maximum d'efforts pour avoir les points, les crédits, ainsi de suite, pour l'entraîner dans le mauvais chemin. Et plus on résiste dans cet âge-là, dans cette tranche d'âge-là, plus on aura des récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyamah. C'est pour ça que les savants disent qu'une personne-là peut demander taubah un jour. Quelqu'un est déjà arrivé, bakoko, m'a fini vieux, là, la barbe il pousse, et la barbe il pousse blanc direct, donc ça va vite, d'accord? Là, il se dit que, ben, il se rend compte qu'il a fait des erreurs dans sa vie, mais sincèrement, hein, sincèrement, il demande taubah. Est-ce qu'Allah accepte ou n'accepte pas? Bien sûr qu'Allah accepte. Si la personne est sincère, il regrette vraiment, Allah va accepter. Attention, là on ne parle pas de quelqu'un qui a programmé sa vie. Jusqu'à 40 ans, c'est one dose stress, c'est le maximum. Et à 40 ans, on essaie de, on passe en quatrième, après à 45 ans, troisième, à 50 ans, seconde. Et après, à partir de 60 ans, c'est bon, mets-tu point mort là. Parce que, ou ça, moi aussi bientôt. D'accord? Cette personne-là qui joue avec le dîn, ça, Allah seul peut juger. D'accord? Mais celui qui vraiment était entraîné malgré lui dans des erreurs, et qu'à un moment donné, il y a plein de gens comme ça, il y a plein de personnes. On connaît qu'à un moment donné de leur vie, ils comprennent qu'ils ont passé beaucoup de temps dans l'erreur, et ils reviennent vers le droit chemin. Ils deviennent, mashallah, dans le droit chemin. Ils se rattrapent, ils essaient de redoubler d'efforts. Allah Azza wa Jalla va pardonner sans le moindre doute. Mais les savants disent que même si une personne à cet âge-là, il demande pardon, il revient sur le droit chemin, alhamdulillah, mais il ne pourra jamais rattraper la jeunesse. La jeunesse passée de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ça on ne peut pas rattraper, même avec Tawbah. Parce que ça c'était un moment phare de sa vie. Un moment essentiel de sa vie. Soit tu l'as réussi, soit tu ne l'as pas réussi, Allah te pardonnera, Inch'Allah, si tu reviens vers le droit chemin. Mais celui qu'il a eu, c'est un trésor qu'il a mis dans sa poche, c'est parti, c'est pour la vie. Mais si vous ne l'avez pas eu pendant la période de la jeunesse, même si après vous retournez dans le dîn bien comme il le faut, mais c'est une période qui a été qu'on a raté. Et une période pour laquelle Shaitan va donner le maximum d'efforts. Donc si on est dans cette tranche d'âge, on se doit d'être encore plus attentif parce que nous sommes encore plus aimés par Allah Azza wa Jalla. On verra la prochaine fois le nombre de sahaba qui avaient moins de 30 ans. Très souvent quand on pense à un sahaba, on se dit que le sahaba c'est une vieille, un vieux, quelqu'un d'âgé avec le prophète sallam, la barbe blanche, les vêtements rapiécés comme ça, en train de faire le dhikrullah en permanence, des gens sages. Oui, c'était des gens sages bien sûr, mais sahaba avait 18 ans. Sahaba avait 16 ans. Sahaba avait 22 ans, 23 ans. Un des sahaba les plus âgés, c'était Abu Bakr al-Siddiq. Il avait 2 ans de moins. 2 ans, non ? De moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisait partie des anciens. Mais sinon, le sahaba était jeune. Et les plus grandes missions de l'islam, qui c'est qui a installé l'islam à Madina Munawwara bidnillah ? Sahab ibn Umar. Un jeune homme. Un jeune homme célibataire. Qui c'est qui a réuni le Coran, jam'u le Coran, qui c'est qui était, subhanallah, qui a été nommé par le prophète sallam pour lutter contre les Romains, Oussama, il avait 18 ans si je ne me trompe pas, qui est devenu le plus grand mufassir de l'histoire de l'humanité, de l'islam, de la Ummah, le prophète sallam, Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Quand on parle d'Ibn Abbas, il y a des gens qui disent Ibn Abbas. Déjà le mot Abbas, c'est un nom peut-être de personne âgée. Ibn Abbas devait avoir 70 ans, 80 ans. Quand le prophète est décédé, Ibn Abbas avait à peu près 15 ans. C'était jeune, sahaba, 90 poissons, c'était des shababs, c'était des jeunes. C'est eux qui ont porté haut et fier l'étendard de l'islam. Donc à nous d'être, incha'Allah, d'en être les dignes héritier. سبحان الله موفقنا لما تحب وترضى يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.